Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Oui. Oui, je vous écoute. On peut y aller. Ok, on n'avait pas encore répondu à ça, effectivement. Effectivement, d'accord. Ça faisait partie des questions en attente. Bon, vous êtes pressé d'avoir la réponse à cette question, on va y venir. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Moi, j'en ai reçu deux. L'une des questions, c'était de savoir comment apprécier. Puisqu'on a parlé hier d'avoir de l'amour pour Dieu, d'aimer sincèrement Dieu, une question était, si j'ai bien compris, d'apprécier notre amour pour Dieu, ou d'apprécier, si vous voulez, la sincérité de notre amour pour Dieu. Une autre question était de savoir comment étudier la Bible, puisque tout revient à ça et qu'il faut la comprendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne commence à répondre? Il y a des questions? Parfait. On va commencer alors à répondre directement. Je commencerai donc par celle-là. Pourquoi Dieu choisit-il des gens ordinaires? D'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle des gens ordinaires, parce que celui qui a posé la question a essayé de faire le contraste entre les gens ordinaires et les gens riches, les gens puissants. La notion d'ordinaire est relative. Quand vous prenez par exemple David, il était le fils d'Isaïe. Isaïe était quand même un notable. Ce n'était pas un roi, ce n'était pas un milliardaire, mais Isaïe était un notable israélien. Donc, ce n'était pas n'importe qui non plus. Si David pouvait garder un troupeau de brebis, c'est bien parce que son père en avait. Tout le monde n'avait pas des troupeaux. Quand vous prenez Abraham, c'est pareil. On lui a demandé de laisser sa famille, ses biens, de partir avec son troupeau. Quand vous prenez Jacob, Isaac n'était pas pauvre. Quand vous prenez Isaac, Abraham n'était pas pauvre. Donc, la notion d'homme ordinaire relative, quand vous prenez par exemple Paul n'était pas n'importe qui, c'était quand même un érudit, un scientifique, un philosophe, un homme de droit, un dignitaire israélien. Mais il y avait aussi des pauvres, des vrais pauvres. Donc je dirais que le critère commun à ceux que Dieu choisit n'est de toute évidence pas leur pauvreté. Ce n'est pas leur pauvreté matérielle, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des mendiants. Dieu a pu choisir des mendiants, mais Dieu ne prend pas systématiquement quand il veut travailler des mendiants. Marie n'était pas une mendiante, ce n'est pas non plus des gens qui n'ont rien. Mais c'est effectivement des gens ordinaires, des gens pauvres d'un autre point de vue. D'ailleurs, il dit « heureux ceux qui sont pauvres de cœur ». C'est les gens pauvres de cœur, et la question tombe très bien, puisque nous parlons ici des hommes selon le cœur de Dieu. Un pauvre de cœur, c'est quoi? C'est le contraire d'un riche de cœur, d'un orgueilleux. Les riches, en général, on l'a déjà dit ici, je le répète, il y a deux catégories de riches. Il y a ceux qui sont devenus riches en faisant tout ce qui leur semblait bon, un peu la théorie machiavélique qui dit « tout chemin mène à Rome, tout est bon à faire, c'est la fin qui justifie les moyens. » 99% des riches que vous voyez sont des gens qui sont devenus riches en considérant que la fin justifie les moyens. D'ailleurs, au niveau juridique, au niveau de la gendarmerie, il y a par exemple des principes qui disent que toute fortune n'est pas définition criminelle. C'est-à-dire que techniquement, les spécialistes du droit, les policiers, les gendarmes estiment que quand tu vois quelqu'un de riche, À moins de ne pas chercher à le fatiguer. Si tu fatigues, tu trouveras forcément un crime. Quand on dit un crime, ce n'est pas une personne qui a été tuée, mais c'est une fraude sur les impôts, c'est un dédouanement qui n'a pas été fait, c'est que ses employés mal payés. Bref, il y a même des gens qui, dans cette logique, ils n'ont pas tout à fait tort, estiment que toute fortune est par définition criminelle, c'est-à-dire est souvent ou est presque toujours basée sur une série de péchés. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que Jésus dira aussi qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais pourquoi il en est ainsi? Alors que nous l'avons vu, Dieu est le maître de l'or et de l'argent et que Dieu fait la promotion de la prospérité et que Dieu n'a jamais voulu que les gens soient pauvres. Bien au contraire, il a enrichi, il a béni tous ceux qui le suivent, comme Salomon, comme David. La différence, c'est que les riches dont nous parlons sont devenus riches en faisant tout ce qui leur semblait bon. S'il faut mentir pour avoir de l'argent, on le fait. S'il faut tuer pour avoir de l'argent, on le fait. S'il faut écraser les autres pour avoir de l'argent, on le fait. S'il faut se prostituer pour avoir de l'argent, on le fait. S'il faut être un voleur pour avoir de l'argent, on le fait. S'il faut détourner l'argent prévu pour des hôpitaux, pour des bonnes femmes, pour accoucher, on le fait. La plupart des riches font tout, c'est-à-dire en général, rien que du péché, pour essayer d'avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'ils servent le diable, et c'est le diable qui leur donne l'argent. Mais comme toute chose que le diable donne, ça vient rapidement, mais ça ne dure jamais. Et c'est pour ça que vous allez voir la plupart de ces fortunes-là montent très très vite et s'écoulent aussi très rapidement. Le Bénin aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont dit « Mais ce gars-là était riche aujourd'hui, il n'a plus rien, il vend tout. » On est dans l'immobilier, on le voit tous les jours. Des transitaires, des douaniers, des gens très prospères, ils ont amassé des biens, on ne sait pas comment. Et puis, rapidement, ils vendent. Il faut vendre. Parce que comme le dit la Bible, bien mal acquis ne profite jamais. Soit ils sont malades, soit ils n'ont pas le temps d'en jouir, soit ils meurent, soit ils sont limogés. Bref, Dieu se charge toujours de rétablir l'ordre, comme il a dit. Toute chose a été faite pour une raison, y compris les méchants pour le jour de leur malheur. Donc, quand vous regardez bien dans la vie, la plupart des gens qu'on appelle riches, regardez avec la crise économique 1929, même actuellement, le symptôme c'est quoi? C'est des grosses boîtes qui du jour au lendemain font faillite. Un seul événement se produit à la bourse et puis des gigantesques dinosaures économiques s'écroulent. Regardez des pays comme l'Espagne, comme la Grèce et qu'on sort. Bon, quand on est africain, on dit, ah, c'est des pays qui marchent bien, c'est des pays développés. Il faut combien de temps pour que ces pays soient aujourd'hui en faillite? Et c'est le symbole de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ont tellement mal acquis leurs biens que par les règles de la vie, tôt ou tard et généralement plus tôt que tard, ces fortunes s'écroulent comme un château de cartes. Ils perdent tout, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas l'argent et on voit plein de has-been. Parce qu'ils ont servi le diable les a bénis, le temps de les massacrer comme toujours. Ça, c'est ceux-là qui ne rentreront jamais au royaume des cieux parce que ça leur sera très difficile. Parce qu'ils ont servi ce que Jésus appelle le dieu mammon, le dieu de l'argent. À l'opposé de ces riches, qui sont généralement des gens très orgueilleux, comme le dit la Bible, qui s'imaginent qu'ils ont accumulé leur fortune par leur force, par leur intelligence, par leur sagesse, il y a les pauvres de cœur. Des gens qui disent, moi j'aime Dieu, moi je veux obéir à Dieu, je m'en fous de l'argent, même si tout le monde a besoin d'argent, je sers Dieu. Si je peux servir Dieu et gagner de l'argent, tant mieux. Mais si pour gagner de l'argent, il faut ne pas servir Dieu, il faut ne pas obéir à Dieu, moi je ne suis pas dedans. C'est des gens qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est des gens qui veulent plaire à leur Dieu, qui, en cas de dilemme entre l'argent et leur Dieu, choisissent toujours leur Dieu. Ces gens-là, ils ont trouvé la justice de Dieu. La Bible dit que toute chose leur sera donnée par surcroît. Et c'est le cas de Salomon. Quand Dieu demande à Salomon, parce que Salomon lui a obéi, qu'est-ce que Salomon veut? Salomon ne demande pas de l'argent. Il demande la sagesse, ce qui est l'une des choses les plus importantes pour Dieu. Et Dieu dit, parce que tu as demandé de la sagesse, je te donnerai la sagesse et tout le reste que tu n'as pas demandé, argent, gloire et consort. Et on dit, personne n'a jamais été aussi béni en toutes ces choses-là que Salomon l'a été. C'est-à-dire que, au lieu d'être orgueilleux, d'accumuler des fortunes qui vont dans tous les cas se dissiper par le péché et d'être gonflé d'orgueil, il y a des gens qui se savent pauvres de cœur, qui se savent insignifiants devant Dieu, qui se savent pécheurs, qui demandent la miséricorde de Dieu, qui font tout pour obéir à Dieu, qui font tout pour se sanctifier, qui sont prêts à perdre des opportunités, qui sont prêts à perdre des marchés pour peu qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu. En apparence, on serait tenté de dire qu'on ne peut pas faire comme ça et s'enrichir. Et c'est vrai aussi qu'à vue d'œil, quand ils commencent, on les voit perdre beaucoup de choses parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais c'est juste le temps de l'épreuve. Dès que ce temps de l'épreuve passe, ces gens-là commencent à gagner énormément d'argent, quasiment sans faire d'efforts, parce qu'à partir du moment où ils ont vraiment obéi à Dieu, Dieu se charge de les bénir par surcroît de leur obéissance. Ces gens-là sont des riches qui plaisent à Dieu. Ces gens-là sont bel et bien au paradis. Ces gens-là sont les patriarches. Ces gens-là sont les grands hommes de Dieu qui n'étaient rien parfois, mais qui avec un cœur selon le cœur de Dieu, qui avec une obéissance à Dieu, ont donné à Dieu ce qu'il aime, l'obéissance. Et comme il l'a promis, Dieu a ajouté à cette obéissance-là ou a récompensé cette obéissance-là par la prospérité, par la richesse. Et c'est souvent le cas de la plupart des gens que Dieu a levés. C'est des gens ordinaires, c'est pas des gens extraordinaires, que Dieu a pris en ne regardant parfois que leur cœur qui était bon, parfois leur cœur était même mauvais comme Jacob. Mais pour une raison ou une autre, parce que Dieu avait besoin d'eux, on en a parlé déjà ici, Dieu les a pris et par les épreuves les a transformés pour les rendre comme il voulait qu'ils soient. Parce que, je n'arrêterai jamais de le dire, Dieu ne bénit pas les gens parce qu'ils en ont envie. Dieu bénit les gens parce qu'il a besoin d'eux. Quand Dieu vous donne une mission, quand Dieu vous commande un travail, comme tout bon chef, il vous donne les moyens de ce travail. S'il vous commande de construire une maison, il vous donnera de quoi construire la maison. C'est pour ça qu'il dit là où il y a la vision, il y a les provisions. S'il vous commande d'affronter 1 milliard de personnes, il vous donnera des équipements, des armes capables de battre 1 milliard de personnes. Mais s'il vous demande de ne faire que nourrir votre femme et un garçon, il vous donnera les moyens qu'il faut pour ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, plus Dieu a besoin de vous, et mieux, plus Dieu vous sent disponible à être utilisé par lui pour faire de grandes choses, plus Dieu va vous envoyer les provisions et les moyens de réussir des grandes choses. Et c'est là où on revient encore au cœur. Parce que quand vous prenez quelqu'un, par exemple, comme Paul, on va dire, mais quand Dieu a recruté Paul, Paul était ce qu'il pouvait avoir de pire, un tueur de chrétiens. Mais Dieu dit, je regarde aux apparences, on a au cœur. Quand vous regardez bien, le cœur de Paul a toujours été plus à Dieu que le cœur de Pierre. Paul, quand il persécutait les chrétiens, les persécutait parce qu'il croyait sincèrement pour ce qu'il sait de Dieu, vu son éducation, vu sa formation, que ça là c'était contre Dieu, que ça là c'était de l'hérésie. Et c'est par zèle pour Dieu, c'est par passion pour Dieu, c'est en tant qu'homme prêt à tout pour Dieu qu'il a été redoutable comme ça avec les chrétiens qu'il considérait à l'époque, parce qu'il n'avait pas encore compris lui-même, comme étant des gens qui mentaient sur Dieu. C'est le zèle qu'il a pour Dieu, c'est la passion qu'il a pour Dieu qui l'a poussé à être si terrible que ça avec les ennemis de Dieu. Donc, pour les hommes, on dira, voilà un grand tyran. Mais Dieu voit qu'au-delà de sa tyrannie, qu'est-ce qui le motivait à être tyrannique? Il y a plein de gens qui estimaient que l'évangile était contre Dieu, mais qui n'ont pas réagi. Et la preuve que Dieu a eu raison, quand Paul est passé dans le camp de Jésus, il a encore été là le champion, comme il était déjà le champion des persécuteurs. Il a été très rapidement le champion. Il a fait mieux que tous les autres disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver là, il a toujours été un homme de passion, un homme engagé, un homme courageux, un homme compétent, un homme zélé, un homme prêt à tout, y compris à perdre sa propre vie, pour défendre les idées auxquelles il croit. S'il est vrai que ces idées ont pu être mauvaises, il a toujours cette qualité-là d'être prêt à tout pour les défendre, surtout quand il s'agit de Dieu. Et ça, Dieu le voit. C'est ce qu'on appelle être selon le cœur de Dieu. Il peut se tromper, mais Dieu voit que ce cœur-là est en train de tuer parce qu'il croit que c'est bon pour Dieu de tuer. Dieu va en tenir compte et va régler ce problème, mais il sait que ce cœur-là, il en a besoin. Vous prenez Jacob. On dit roublard, il a volé la bénédiction, il a tout ça. Mais la Bible dit que Dieu aimait Jacob dès le ventre de sa mère et haïssait Esau. Alors, on peut se demander, mais dans ce roubleur, dans ce Jacob-là, qu'est-ce que Dieu aimait? Mais Dieu aimait, l'histoire de Jacob, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour la bénédiction. C'est quelqu'un qui est prêt à utiliser même des moyens humains, charnels, qui ne sont pas tout à fait équitables et de Dieu, mais pour avoir quoi? Pour avoir la bénédiction. Alors que Esau, c'est le gars qui, pour un bol d'haricots, était prêt à balancer la bénédiction. Donc, l'un s'en foutait de la bénédiction qu'il avait légitimement en termes de droit d'aînesse, l'autre ne l'avait pas, mais était prêt à tout pour l'avoir. Et quand il a été chez Laban, quand on voit 7 ans fois 2 pour avoir une femme, quand même, c'est quelqu'un qui semble être déterminé, qui a l'habitude de payer le prix, quel qu'il soit, pour avoir ce qu'il veut. Ça, ce cœur-là, Dieu l'a vu. Quand tout le monde ne voit un Jacob qu'un bandit, qu'un roublard, Dieu a déjà vu dans ce cœur-là un cœur prêt à tout pour la bénédiction. Un cœur qui se sait donc pauvre et qui est prêt à n'importe quel prix à recevoir de la bénédiction. C'est ce genre de choses-là dans le cœur que Dieu recherche. Et c'est ces choses-là qui peuvent permettre de dire « tel est selon le cœur de Dieu ». Donc quelqu'un peut me mettre en apparence méchant, mais Dieu regardant au cœur et non aux apparences peut discerner dans cette méchanceté ou derrière cette méchanceté un cœur qui lui plaît. Et quand Dieu discerne en dépit des apparences ce cœur qui lui plaît, il est capable d'aller le chercher, de le laver, de le transformer, de l'équiper, de l'épurer, de le formater, pour enlever les choses qui font que ce cœur, bien qu'étant bon, fait de mauvaises choses, afin de rendre les gens capables de faire de bonnes choses. Tout cela nous explique encore plus l'importance du cœur. Donc Dieu va souvent utiliser des gens qui ont un cœur à lui, des gens qui ont un cœur sincère, des gens qui ont un cœur passionné, des gens qui ont un cœur plein d'amour, des gens qui ont un cœur déterminé, des gens qui ont un cœur courageux, des gens qui veulent prendre des risques. Et c'est souvent des gens ordinaires parce que les riches sont souvent les malins, ils sont orgueilleux, ils sont trop importants, ils pensent qu'ils ont tout, qu'ils n'ont besoin de rien. Alors que par définition, Dieu aime ceux qui estiment qu'ils ont besoin de tout. On dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. On dit que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la déchéance. Parce que par définition, Dieu étant tout et ayant tout, il sait très bien que nous n'avons rien. C'est comme qu'un enfant à 12 ans, 13 ans, il commence à faire le malin parce qu'il pense que, parce qu'il a commencé à comprendre un certain nombre de choses, il sait déjà tout. Et regardez comment ça irrite les adultes à ce moment-là. C'est pas faux que l'enfant commence à comprendre des choses, mais c'est aussi vrai qu'il n'a pas compris grand-chose. Et que le peu qu'il a commencé à comprendre ne lui donne pas le droit, s'il était un peu sage, de faire tout le zèle qu'il fait. Mais chacun d'entre nous, les riches, les gens qui s'estiment intelligents, intellectuels, bardés de diplômes, de doctorats, de masters, de je ne sais trop quoi, sont un peu comme ces adolescents qui, parce qu'ils ont un petit quelque chose, ont l'impression qu'ils n'ont plus besoin de rien. Ils ont donc tendance, comme un adolescent, à vouloir se couper de la tutelle du père et de la mère. En fait, chacun de nous passe sa vie en crise d'adolescence avec Dieu. Dès qu'on a un peu d'argent, un bon salaire, qu'on est marié, qu'on a des enfants, qu'on a un emploi, on estime que bon, maintenant, on est comme un adolescent, Dieu, on n'a plus besoin de toi. On rentre donc en crise d'adolescence avec Dieu. Regardez l'effet que ça fait un parent. Il n'y a rien de plus énervant qu'un enfant adolescent. Parce que vous savez bien, pour être ses parents, qui n'a encore rien compris que si on le laisse, il va aller dans le chaos, il va s'attraper une grossesse, il va engrosser une fille, il va faire une série de bêtises qui vont bouder sa vie. Mais lui, il demande que vous le laissiez tranquille faire n'importe quelle bêtise. À ce moment-là, les enfants les plus appréciés par leurs parents sont ceux qui, bien qu'ayant l'âge d'avoir commencé à comprendre des choses, ceux qui, bien qu'étant en train de grandir, sont encore dociles et veulent encore s'abandonner à leurs parents parce qu'ils savent qu'ils ont toujours besoin de leurs parents, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas encore tout, parce qu'ils savent qu'ils ont encore besoin de leurs parents, qu'ils ont encore besoin de la bénédiction de leurs parents, qu'ils ont encore besoin des moyens de leurs parents, qu'ils ont encore besoin des relations de leurs parents, qu'ils ont encore besoin des conseils de leurs parents. Donc Dieu aime particulièrement les gens humbles, les gens pauvres de cœur, c'est-à-dire les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls et que sans Dieu, ils ne sont rien. Ce qui est rarement le cas des gens qu'on dit importants. Et Dieu ne va jamais choisir quelqu'un qui estime qu'il peut s'en sortir tout seul. Il prendra toujours des gens qui sont au point de comprendre qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est pour ça que souvent, la plupart des gens viennent à Dieu quand ils sont brisés, quand ils sont dans des épreuves, quand pour une raison ou une autre, au niveau du couple, au niveau des affaires, au niveau de l'emploi, quand ils prennent un choc qui les oblige à admettre que là, ils sont à la limite de leur capacité, c'est souvent le meilleur moment dans la vie d'un homme pour qu'il rencontre Dieu. Parce qu'à ce moment-là, même s'il le voulait, il n'a pas les moyens d'être orgueilleux. Et vous allez voir que dans les églises, par exemple, la plupart des gens sont des femmes. Vous allez voir qu'à l'église, ça a commencé peut-être à changer un peu, mais la plupart des membres dans une église, le club Jésus pour ici est une exception. Quand vous allez dans une église, c'est peut-être parce qu'ici, le club Jésus pour ici est un peu intellectuel, qu'on a plein d'hommes. Mais si vous allez dans une église, la majorité des fidèles aux deux tiers, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que l'église prône un abandon inconditionnel et quasiment bête à Dieu. Une femme, depuis son enfance, est éduquée pour dépendre de son papa, puis ensuite de son copain, puis de son mari. Elle est socialement programmée pour dépendre des autres et pour ne trouver aucun mal à ça. Mais un garçon est programmé pour ne dépendre de personne et pour assumer ses responsabilités. Donc, psychologiquement, il est plus difficile pour un homme de s'abandonner à quelque chose, quel qu'il soit, même si c'est Dieu, qu'à une femme de s'abandonner à quelque chose, quel qu'il soit, surtout si c'est Dieu. Et c'est pour ça que dans les couples, les femmes donnent toujours généralement leur vie à Jésus avant les hommes, parce qu'elles ne trouvent rien d'extraordinaire, de difficile à dire, bon, je m'abandonne à lui. Elles sont habituées à s'abandonner à des hommes qui ne valent rien. C'est pas à Dieu qu'elles n'y arriveront pas. Mais l'homme n'est pas habitué à s'abandonner à quelqu'un. Il est programmé pour prendre ses responsabilités, pour démontrer qu'il est un homme, qu'il est fort, qu'il est capable, ainsi de suite. Et là, quand on rencontre Dieu, on devrait rencontrer qu'avec lui, là, il n'y a rien à démontrer. Gang, no play, gang. Et s'abandonner. Mais les hommes ont du mal à le faire. Je termine, je réponds, je vais vous donner la parole. Donc, si par exemple au club, il y a plus d'hommes, c'est parce que l'approche du club est une approche intellectuelle qui flatte l'ego des hommes. Il leur donne de comprendre Dieu avant de s'abandonner à lui. Contrairement à une église, le club ne demande pas à quelqu'un de suivre Dieu vêtement. Il convainc les gens techniquement, de manière pragmatique de tout. Et c'est pour ça que les statistiques sont là pour confirmer cette analyse. Vous allez avoir peut-être au moins autant, sinon plus d'hommes ici que de femmes. Mais dans une église, vous verrez toujours plus de femmes que d'hommes à cause de l'orgueil que Dieu lui-même a donné à l'homme. La Bible dit dans la Genèse, l'homme est fait pour régner, pour dominer. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais c'est physiologiquement le choix que Dieu a fait. Et hélas, quand Satan a voulu manipuler quelqu'un, il n'a pas manipulé l'homme, il a d'abord manipulé la femme. Parce qu'elle est plus facile à manipuler que l'homme. Donc, les femmes sont toujours plus sensibles à ce genre de choses parce qu'elles sont programmées par Dieu lui-même pour cela. Donc ça c'était pourquoi Dieu choisit-il des gens ordinaires. Et donc on ne peut en aucun cas déduire que la richesse est un obstacle à l'élévation. Non, Dieu n'a rien contre les riches, bien au contraire. Quand vous êtes en Dieu, quand vous obéissez à Dieu, vous êtes obligé de prospérer. La Bible est claire, vous n'êtes pas censé manquer de quoi que ce soit. Dieu fait venir à vous toutes sortes de provisions, de sorte que quel que soit le besoin, il soit pourvu et qu'en plus vous ayez des suppléments pour faire de bonnes œuvres. Dieu s'est fait pauvre pour que vous soyez riche. il est le maître de l'or et de l'argent. Donc, c'est impossible d'obéir à Dieu durablement et d'être pauvre. Même si vous ne cherchez pas l'argent, vous êtes obligé d'être riche si vous obéissez à Dieu. Et la Bible ne dit pas que vous allez chercher des dieux, fait venir à vous toutes sortes de bénédictions. La Bible dit pendant que certains courent, ses enfants dorment, il est béni. Mais pour arriver, on l'a déjà dit, c'est comme quand vous êtes dans la maison de votre père, on l'a dit la semaine dernière. Quand on est dans la maison de son père, on ne mendie pas. Qui, à midi, quand on est dans la maison de son père, dit j'ai faim? Quand vous êtes dans la maison de votre père, à midi, on vous donne à manger, que ça vous plaise ou non. À la limite, c'est vous qui pouvez faire le malheur et refuser. Quand vous êtes dans la maison de votre père, vous êtes malade, on ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé d'aller dire, donnez-moi de l'argent pour me soigner. Vous vous réveillez à peine, votre père va dire, mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Tu m'as l'air pas en forme là. Bon, va à l'hôpital là. Si c'est quelque chose, viens me dire, je vais payer le médicament. Vous sortez de votre chambre, votre pantalon est déchiré, votre père va me dire, mais ça ne va pas chez toi de sortir un pantalon déchiré, va me le changer. Si tu n'as pas d'argent, viens prendre l'argent, va l'acheter. Quand vous êtes dans la maison de votre père mieux que vous connaît vos besoins. Ce que vous trouvez normal, votre père sait quand c'est anormal. Et quand vous manquez de quelque chose, votre père le sait avant vous parce qu'il vous connaît. Et donc, quand on est dans la maison de son père, on ne demande pas les choses. La plupart des choses nous sont données automatiquement parce qu'on est dans la maison de notre père. C'est pour ça que Jésus dit, ne cherchez pas ces choses. Votre père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui les demandent, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans la maison du Père. Cherchez premièrement la maison du Père et toutes ces choses vous sont données par surcroît. Mais c'est valable sur la terre. Qui est dans la maison de son Père et s'inquiète de ce qu'il mangera à midi? Est-ce qu'on a besoin de jeûner pendant 3 jours pour obtenir que son papa nous donne à manger? On a besoin de jeûner pendant 40 jours pour obtenir que son papa vous achète une chemise? Si votre papa a des relations pour vous trouver de l'emploi, vous avez besoin de jeûner pendant 21 jours pour qu'il vous donne de l'emploi? Pourquoi les gens pensent que Dieu est plus méchant qu'un papa humain? La Bible dit même, si vous qui êtes méchant, vous savez donner ces choses à vos enfants, pourquoi croyez-vous que Dieu ne peut pas les donner? Des pères méchants, qui ont parfois plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, ne sont pas capables de filer ces choses à leurs enfants. Ne n'attendent pas que leurs enfants le demandent pour le donner. Et vous faites croire aux gens que Dieu a besoin qu'on le supplie, qu'on jeûne pendant 40 ans avant de nous donner à manger. Parce qu'on serait meilleur que Dieu. Vous voyez? Donc, oui, il faut prier. Mais Jésus a dit clairement, ces choses, votre père sait que vous en avez besoin. Ne vous en occupez pas. Rentrez dans la maison du Père. Quand vous voyez un garçon qui commence à dire, ah, je n'ai pas payé mon loyer, le propriétaire me chasse, il n'y a rien à manger. C'est qu'il a cru qu'il était assez gré, il a quitté la maison de son père. Même si vous avez 50 ans, si vous êtes dans la maison de votre père, vous n'allez jamais avoir le problème de propriétaire qui vous a persécuté pour le loyer, de facture d'électricité non payée, de nourriture qui manque. Ou bien, si vous commencez à poser ces problèmes, c'est qu'un jour vous avez cru que vous êtes assez grand pour passer de votre papa, que vous avez quitté sa maison. Ou bien, je lui dis, mais retournez à la maison de votre papa. Au lieu de rester, vous dites que vous êtes grand, vous sortez à la maison de papa et tout le midi vous appelez pour dire que vous avez faim. Je lui dis, c'est pas la peine de téléphoner à papa. Vous avez faim? Revenez à la maison. Quand vous êtes à la maison, on voit que vous êtes là. Quand on prépare pour vous. Surtout que votre papa n'a pas faim. Le papa n'en parle ici, rien ne lui manque. Votre papa est milliardaire, il est président de la République, rien ne lui manque. Vous quittez la maison pour dire que vous êtes capable de vous débrouiller et vous appelez tous les jours, toutes les minutes pour dire que vous avez besoin. Il revient à la maison. Quand il revient à la maison, tu n'as pas besoin de téléphoner, tu n'as pas besoin de demander. Quand vous allez commencer à obéir à Dieu, quand vous allez commencer à aimer Dieu, quand vous serez spirituellement dans la maison de Dieu, tout ça là vous sera donné sans que vous le demandiez. Et on revient à ça. Le plus dur et le plus important à faire, c'est de revenir à Dieu. C'est pas d'être loin de demander des choses à Dieu. Alors, quelqu'un a demandé comment étudier la Bible. Parce qu'effectivement, il faut méditer la parole jour et nuit. On peut se demander comment y arriver. Il n'y a pas de méthode standard. Je crois que ça dépend du tempérament de chacun. Ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend des priorités qui sont les nôtres. Ça dépend de ce qu'on cherche. C'est un gros livre. En fait, c'est 66 livres ensemble. Certains décident de prendre de manière aléatoire un livre comme ça et de le lire. Par curiosité. Certains se disent, j'ai tel problème, par exemple, j'ai un problème de couple. Où est-ce qu'on en parle dans la Bible? Ces gens ont des problèmes, par exemple, avec leur belle-mère. On va leur dire, allez, lis l'histoire de Ruth et de Naomi. Des gens ont des problèmes d'élévation dans la vie. Allez, lis l'histoire de David. Des gens sont dans des grandes difficultés, la vie semble broyée. On va vous dire, allez, l'histoire de Job. Donc, parfois, connaissant un peu l'histoire et les thèmes abordés par les grands livres de la Bible, on va vous envoyer ou vous allez tenter d'aller prendre un livre particulier, de le lire, parce que a priori, il risque d'avoir dedans beaucoup de réponses à vos problèmes. Et en le lisant, vous allez découvrir que ce que vous vivez n'est pas nouveau. Comme le dit Ecclésiaste, il y a un nouveau sous le soleil. Les gens l'ont vécu déjà avant vous, l'ont vécu parfois pire que vous. Et Dieu, dans ce livre-là, a déjà dessiné la solution. Et vous voyez souvent que votre histoire se superpose aux histoires de la Bible. Et donc, les solutions que vous ne voyez pas sont déjà écrites dans la Bible par rapport à ce qui est arrivé aux gens. Donc, la première manière, c'est de prendre de manière aléatoire un livre. La deuxième, c'est d'aller à un livre parce qu'on pense qu'il y a dedans une histoire ou un scénario qui ressemble au problème que nous vivons ou aux défis qui sont les nôtres. L'autre approche, c'est de prendre, comme certains le font par exemple, de dire, bon, je lis tout le Nouveau Testament. Ou de dire, je lis tout l'Ancien Testament. On peut lire l'Ancien Testament d'abord parce que c'est par là que ça commence. Et ensuite voir dans le Nouveau Testament son accomplissement. Comme certains se disent, le Nouveau Testament est plus pragmatique, c'est le quotidien, c'est l'histoire de Jésus. On le lit et puis après on va voir l'arrière-cour, comment ça avait été annoncé. Comme il y a des gens qui, par exemple, parce qu'ils sont chômeurs ou parce qu'ils ont le temps, décident de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse et le lisent d'un trait. Ça dépend aussi, il y a des gens qui font ça, qui le font plusieurs fois. Mais je dis que ça dépend de beaucoup de choses. Je prends un exemple. Si vous venez d'arriver à Dieu, vous ne connaissez rien, vous lisez d'un bout à l'autre, par exemple, le livre de la Genèse, vous allez garder globalement l'histoire. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne percevez pas entre les lignes. Mais quand vous avez déjà découvert sur Dieu certaines choses qui sont peut-être dans l'Apocalypse, dans Matthieu, dans Marc, ainsi de suite, vous relisez la Genèse, vous allez subitement comprendre des choses qui ne semblaient pas avoir de sens parce que vous ne connaissez pas le tableau général. C'est ça le problème de la Bible. La Bible est comme le monde. On peut prendre cette chose-là, l'étudier pendant 10 ans. On peut prendre la pièce-là, l'étudier. On peut prendre le quartier, l'étudier. On peut prendre la ville, l'étudier. Comment on peut étudier le monde entier? Ça dépend de ce qu'on cherche, du temps qu'on a, de où on va, de où on a commencé. Toutes ces formes d'études sont possibles, selon l'objectif, selon les moyens qu'on a, selon le temps dont on dispose. Il y a aussi la possibilité de faire des études par thème. Vous prenez par exemple un thème donné, et vous cherchez dans la Bible, partout où on en a parlé, et vous voyez un peu tout ce que la Bible dit de ça sous différentes formes, sous différents angles, sous différentes postures. Ce qui vous donne sur le sujet une vue panoramique et complète du point de vue divin. Et c'est à ça que sert par exemple des bibliothèques comme celle-là. Une bibliothèque comme celle-là est rangée par thème. Vous avez des livres sur le Saint-Esprit, sur la prospérité, sur la guérison. Vous avez des encyclopédies, des livres sur l'éducation des enfants, des livres sur le leadership, des livres sur le pouvoir de la parole, des livres sur la prospérité, ainsi de suite. Quand vous prenez de ces livres, c'est un livre qui, par exemple, essaie de vous rendre rapidement les grands principes qui se retrouvent dans la Bible sur le sujet. Selon la qualité des auteurs, leur expérience, leur vécu, leur connaissance de la Bible, c'est plus ou moins exhaustif, plus ou moins intéressant. Avec leurs commentaires, parce que il y a des gens aussi qui, en lisant la Bible, reçoivent des révélations personnelles. Par exemple, tout ce que je dis, on peut lire la Bible, les parties que j'ai lues, et ne pas l'avoir perçue. Donc, quand quelqu'un lit la Bible, Dieu lui en donne des révélations personnelles. Et donc, parfois, vous lisez des livres de personnes qui ont reçu de grandes révélations sur des passages de la Bible. D'ailleurs, comme Paul a reçu des révélations pour écrire les évangiles qu'il a écrits. Donc, quand vous prenez un bon livre et que vous le lisez du début à la fin, sur par exemple la santé, il va faire des analyses, mais il va citer beaucoup de versets bibliques. Quand vous aurez fini le livre, vous aurez fait comme une balade panoramique dans la Bible sur le sujet de la santé. Cela vous fera connaître non seulement globalement la vision de Dieu sur la santé, si le livre est bien écrit, mais vous aurez connu beaucoup de citations de la Bible de différents livres. Parfois, quand une citation vous marque et que vous vous arrêtez dessus, vous dites « bon, je vais voir en détail de quoi il s'agit dans la Bible », vous allez dedans, vous le lisez, ça vous intéresse, vous avez tendance à lire tout le chapitre. Cela étant, vous venez de découvrir tout un chapitre de la Bible pour mettre les choses dans leur contexte. Donc, il y a plusieurs, vous pouvez prendre, il y a des encyclopédies là, il y a des commentaires détaillés de chaque livre de la Bible. Vous les avez là. Vous avez des dictionnaires bibliques. Vous avez beaucoup de choses. Donc, je dirais que selon votre besoin, selon votre urgence, selon le temps dont vous disposez, selon les outils dont vous disposez, et selon votre zèle pour la parole de Dieu, on peut étudier la Bible de 1000 manières. On a même là des livres sur comment étudier la Bible, sur les différentes méthodes d'études bibliques, comment on peut naviguer dans la Bible. Il y a des livres, par exemple, qui ne vous font que présenter globalement la Bible avec chaque livre, quelle est son histoire, qu'est-ce que ça dit globalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir. Donc, selon votre objectif, on peut prendre la Bible sous un angle, sous un autre, c'est un livre vivant. Ne vous sentez obligé à aucune méthode. Selon votre inspiration, vos besoins, vous pouvez aller dans une direction ou une autre. Mais, pour ma petite expérience personnelle, prendre des livres qui traitent d'un thème en entier vous permet de rentrer plus rapidement dans la Bible. C'est-à-dire que vous maîtrisez rapidement, non pas toute la Bible, mais certaines questions sur la Bible. Quand vous prenez, par exemple, sur la prospérité, vous lisez 2-3 livres, vous êtes généralement meilleur que beaucoup de pasteurs sur la question de la prospérité dans la Bible. Ils connaissent peut-être la Bible mieux que vous, mais si on doit parler de la prospérité, que vous avez bien travaillé ces livres, ils ne vous battront pas. Parce que tout ce que la Bible dit globalement sur la prospérité, vous lisez 2-3 livres là-dessus, vous le savez. Si vous prenez 2-3 livres sur la guérison, vous allez maîtriser la question de la guérison dans la Bible. La pratiquer, c'est une autre chose. Avoir l'onction pour guérir, c'est différent de comprendre les principes de la guérison. Mais au moins pour votre auto-guérison et consort, vous connaîtrez globalement ce que dit la Bible. Et parfois mieux que des hommes de Dieu qui sont des généralistes, qui ont lu la Bible de A à Z 3-4 fois, mais qui n'ont jamais eu la chance de faire une étude où des liens ont été faits, des corrélations ont été faites, des parallèles ont été faits, des démonstrations ont été faites. Donc, pour ma petite expérience, et elle est liée aussi à ma personnalité, à mon tempérament, parce que chacun a une manière différente d'appréhender les choses. Il y a des gens qui ont besoin de lire toute une histoire en détail 2-3 fois avant de rentrer dans les détails. Moi, je suis du genre à vouloir aller à l'essentiel rapidement. Donc, selon aussi comment votre cerveau fonctionne, selon que vous avez une logique littéraire ou une logique scientifique, les approches de lecture de la Bible ne seront pas la même. Moi, par exemple, je ne suis jamais assis pour lire un livre de la Bible du début à la fin. Ça fait tant que je l'ai fait un peu, mais j'ai découvert le gros de la Bible sans jamais m'asseoir pour lire la Bible d'un livre à la fin. Rien que par des études thématiques. L'avantage, c'est que sur les questions que vous décidez d'attaquer, vous les maîtrisez. Et en général, on va à la Bible parce qu'on a un problème précis. Donc, vous allez forcément plus rapidement à votre solution dans la Bible en prenant un livre sur le sujet qu'en prenant la Bible pour dire comment je commence à lire. Vous avez aussi sur Internet des logiciels qui sont pas mal. Il y a par exemple un truc qui s'appelle youversion.com. Il y a beaucoup, hein. Il y a enseignemoi.com, je ne sais pas trop quoi. Il y a plein de sites Internet sur le web où vous pouvez avoir des logiciels, des Bibles en ligne, vous rentrez un mot, vous lancez la recherche, ça va vous montrer toutes les parties de la Bible où c'est. Vous pouvez l'avoir dans parfois des logiciels dans le téléphone. Vous pouvez dire par exemple mariage, ou dire Saint-Esprit, ou dire baptême. Et puis ça vous montre tous les passages de la Bible qui en parlent. Donc vous pouvez même avec les outils modernes, c'est pour ça qu'on veut avoir bientôt le Wi-Fi ici, faire des études de cas sur une problématique donnée. C'est bon? On ne me l'a jamais dit, mais j'essaie de voir à quoi ça peut correspondre. Je ne vois pas pourquoi Dieu aurait un problème à ce que le nom de ses enfants soit écrit dans sa parole. Moi, je n'en vois rien. Tout ça, c'est du fétichisme. C'est-à-dire qu'il y a des religions ou des églises qui cultivent le fétichisme. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas écrire tel chiffre, il ne faut pas mettre la Bible à tel endroit. On n'est pas dans un couvent de féticheurs avec des accessoires de magie. C'est votre Bible, vous écrivez votre nom dedans. Pas de problème. On met des notes dans la Bible. On peut surligner une partie. C'est un document qui vous appartient. Vous avez le droit de mettre de surligner des choses, de mettre des croix sur des choses, de mettre des commentaires même si vous voulez. C'est votre Bible. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'écrire son nom dans le livre de la vie? Je ne sais pas. Et parce que la vie d'un homme n'est pas sacrée. Dieu dit nous sommes des dieux. Alors, pourquoi en tant que Dieu ne peut pas avoir son nom dans la Bible? Je n'y crois pas du tout. Bon, on ne sait pas, hein, peut-être que... Je vais faire la recherche pour voir si quelque part la Bible dit en elle-même qu'il ne faut pas écrire le nom de quelqu'un dessus. On verra, mais sinon... Alors... Comment mesurer, comment apprécier, comment évaluer notre relation avec Dieu, le niveau de notre amour avec Dieu? C'est une question délicate, mais voilà ce que j'en dirais. Nous sommes hélas dans une société où l'amour vrai, c'est pas que ça n'existe plus, mais est devenu très rare. Et c'est devenu tellement rare que c'est une question, moi j'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle a l'air de rien, mais c'est une question fondamentale. Quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas ce qu'est l'amour. Les gens finissent par penser qu'aimer, c'est voir une fille, c'est la draguer, c'est coucher avec elle, s'amener en boîte de nuit, c'est forniquer avec elle, et puis ça s'arrête là, après on jette ça. Mais aller sur Internet, échanger des photos obscènes, échanger des mots doux par SMS, c'est le résumé de l'amour aujourd'hui. Et la preuve qu'en forme les couples, ils ne tiennent pas parce que de très bonne foi, beaucoup d'hommes et de femmes ne savent rien à ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Surtout aujourd'hui, hélas, avec les familles monoparentales ou avec une certaine génération qui a échoué, vous découvrez qu'il y a des filles qui ont grandi sans jamais voir leur maman et leur papa vivre ensemble, s'aimer, s'embrasser, s'offrir des fleurs, être gentil l'un avec l'autre, la maman respectant le papa, traitant le papa comme Sarah traite son mari en disant Seigneur, faisant le lit de leur papa. Il y a des enfants qui ont grandi aujourd'hui, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui n'ont jamais vécu dans un ménage normal. Ils n'ont jamais goûté au plaisir d'être à table avec tous les parents à midi ou le soir ou au moins le dimanche, de manger, de discuter, de parler des problèmes de chacun. Ils n'ont pas goûté à un certain nombre de choses qui sont le vrai amour, aussi bien au sens de la famille qu'au sens du couple. Il y a des filles qui n'ont jamais vu leur maman avec un homme en train d'être tendre, en train d'être gentille. Mais toujours, la maman changeait de mari tout le temps, de copain tout le temps, il vient aujourd'hui, dort, demain on ne le voit plus, après demain il vient, ainsi de suite. Donc, ces filles-là, elles ne savent de l'amour que cette frivolité, cette dépravation. Elles n'ont jamais vu leur maman avec un homme faire des sacrifices, s'énerver, se calmer, se disputer, se réconcilier. Ils n'ont jamais vu ça. Et conclusion, même si on ne le réalise pas, peut-être nous qui avons vu les deux ou qui n'avons pas vu ci, ainsi de suite, c'est que de bonne foi, nous avons aujourd'hui une génération qui ne connaît plus l'amour, qui connaît le sexe très bien, qui connaît les passions sexuelles très bien, mais qui ne connaît plus l'amour. Qui ne sait plus ce que ça veut dire, par exemple, d'avoir une copine qui est enfant pendant qu'elle est au Bénin pendant 10 ans, de lui écrire un courrier, d'attendre 3 mois que la réponse vienne, de ne pas la voir, mais de l'aimer, de refuser de parler avec aucune autre fille parce que c'est elle qu'on aime, et qu'elle fasse la même chose là-bas, mais de fréquenter ses parents pour les connaître. C'est-à-dire, le modèle biblique était aussi un peu le modèle traditionnel qu'on a persécuté, on a dit c'est dépassé, c'est démodé. Beaucoup de gens ne l'ont plus vu, ne savent même plus à quoi ça ressemble. Donc, le sexe, cette contrefaçon de l'amour que le diable a su très bien utiliser, a pris tellement de proportions qu'on peut juger beaucoup de jeunes aujourd'hui d'avoir des couples instables, de ne pas être de bons maris, de ne pas être de bonnes femmes. Mais quand on prend le recul, qu'est-ce qu'ils savent de l'amour? Qui n'a jamais appris ce qu'est l'amour? C'est démontré, si vous prenez un aiglon qui vit dans une basse-cour avec des poules, il ne volera jamais. Il va faire comme des poules, parce qu'il ne sait pas qu'il est censé voler. Mais si vous prenez des poules ou un poussin qui grandit avec des aiglons, il y a de fortes chances, même s'il ne vole pas aussi haut que lui, il vole beaucoup plus haut que des poules, par la loi de limitation. Donc, s'il y a si peu de couples heureux aujourd'hui, j'ai découvert en réfléchissant à cette question que c'est parce qu'hélas, des modèles d'amour, il y en a tellement peu. Que quand on dit amour sincère, les gens se demandent de quoi il s'agit. savent même plus que l'amour, c'est d'abord le sacrifice. C'est d'abord la patience. C'est d'abord le calme. C'est d'abord des intérêts partagés. C'est la capacité à discuter ensemble. C'est la capacité à faire des projets ensemble. C'est la capacité à rêver ensemble. C'est un certain nombre de choses. Quand vous aimez quelqu'un, la personne n'est pas là, on peut passer un mois à attendre impatiemment la minute où on va croiser la personne. Quel jeune aujourd'hui, pendant un mois, attend patiemment de croiser une fille? Si elle traîne, il va coucher avec 10 autres filles pendant le temps. Et dès qu'il a fini de coucher avec, il a laissé passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que ce côté d'avoir, par exemple, une copine, bien qu'on n'ait jamais couché avec elle, mais de passer des mois simplement à attendre de la rencontrer dans un jardin, est-ce que je ne sais encore ce que ça veut dire aujourd'hui? Mais c'est ça le vrai amour. Amour désintéressé. Les amours dans le genre Roméo, Juliette, ou parce que l'un meurt, l'autre se suicide. Vous connaissez un jeune aujourd'hui qui va se suicider parce que sa copine est décédée? Vous en connaissez? Vous en connaissez? Il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Donc, c'est là où vous avez réalisé à quel point le diable avait gagné du terrain. Il faut revenir à l'amour vrai. D'ailleurs, dans les couples, dans le sexe, comme avec Dieu. Quand on aime quelqu'un, on est avec lui, non pas pour quelque chose, mais parce qu'on se sent bien d'être avec lui. Quand on dit par exemple, mais comment les gens font pour prier 4 heures de temps? C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui aime sa femme ou sa copine, ou son fiancé, comment tu fais pour être avec lui de 19h à minuit sans t'ennuyer? Mais combien de personnes ne se demandent pas, mais comment on peut lui dire, il est en train de prier depuis une heure de temps? Qu'est-ce qu'il fout? On dit, Jésus a prié toute la nuit. Mais combien, qu'est-ce qu'il dit pendant toute une nuit? Mais pourquoi les gens ne disent pas, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec sa femme toute une nuit? C'est ça les vraies questions. On dit qu'on aime Dieu plus que tout. Jésus dit, aimez Dieu plus que tout. Donc forcément plus que notre femme et notre mari. Personne ne trouve bizarre que par amour on puisse passer une nuit avec quelqu'un. Mais quand quelqu'un dit qu'il a passé une nuit en communion, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant toute une nuit? Parce que ce que nous savons d'une relation, c'est de l'intérêt. Soit on va avec quelqu'un parce qu'on veut coucher avec elle, soit parce qu'on veut l'embrasser, soit parce qu'on veut prendre quelque chose, on veut qu'elle nous paye quelque chose en boîte de nuit, parce qu'on veut frimer pour l'amener à une fête, ou parce qu'on est pressé de se marier, il faut se marier. Donc, les jeunes ne savent plus aujourd'hui ce que d'être avec quelqu'un juste parce qu'on est heureux d'être avec la personne. Ils ne savent plus ce que c'est que de pouvoir aller quelque part sur une plage avec quelqu'un pendant toute une journée de 8h à minuit, sans coucher avec la personne, sans toucher la personne, rien que parce qu'on est content d'être ensemble, de se parler, de se raconter des histoires, de penser à l'avenir ensemble, de rêver du futur ensemble. Les gens ne savent plus ce que ça veut dire. Mais c'est ça l'amour que Dieu veut. Je suis là, je n'ai rien à faire, je me mets là, je commence à penser à Dieu, au point auquel il est grand. Je prends le temps d'imaginer, mais quand on dit Jésus, on est là, c'est pas des histoires. Imaginez pour le temps de revivre le scénario de la mort de Jésus. De revivre comment quelqu'un de si grand, de si pur, de si propre a pu descendre aussi bas pour nous. Mais pourquoi de réimaginer ses souffrances, de réimaginer sa vie, de réimaginer tous les sacrifices que Dieu a fait? Par exemple, combien de personnes ont pitié de Dieu? Moi, il y a des fois, plus je commence à connaître Dieu, plus j'ai pitié de Dieu des fois. Quand vous comprenez l'histoire de Dieu avec nous, vous avez pitié de Dieu. Dieu crée son monde. Il a un collaborateur qui est Lucifer. Lucifer essaie de lui faire un coup d'état, il vit Lucifer. Donc, pas de problème, fous le camp. Comme je ne peux plus compter sur toi pour me louer parce que Lucifer loue Dieu, je vais me créer des enfants, je vais faire des enfants, au moins mes enfants vont m'aimer. Dieu fait ses enfants, Lucifer dit, ça que tu crois, tes enfants vont te détester. Lucifer va piéger les propres enfants de Dieu et les propres enfants de Dieu commencent à désobéir à Dieu et suivent Lucifer. Vous vous battez avec quelqu'un dans le quartier et malgré tout ce que vous dites, c'est avec lui que votre fille veut sortir. Et vous faites tout, il s'entête. Ah, vous savez que vous avez donné ordre qu'on abatte ce type-là. Et il a un clan de bandits. Si votre fille est dedans, c'est sûr que le jour devant les abattre, on va abattre votre fille. Vous faites tout, vous donnez tout à votre fille, vous lui parlez, vous faites tout. Laisse ce gars, c'est avec elle qu'il veut être. Donc non seulement elle vous humilie, mais en plus, elle prend le risque d'être abattue avec lui. Quelle humiliation pour vous. Vous essayez, tout ça ne marche pas. Et ainsi de suite, jusqu'à vous aller même à la croix, juste pour essayer de redonner un peu de pouvoir psychologique, mental, spirituel à cette fille-là pour résister. Et malgré tout, certaines de vos filles continuent de sortir avec le gars. On se sent comment? Et les gens parlent de Dieu comme, bon, il a plein de choses, il peut nous donner, lui n'a aucun problème. Mettez-vous un peu à la place de Dieu. Vous ne voyez pas que Dieu parle souvent, il veut des gens pour le louer, des gens pour l'adorer, si vous ne le louez pas. Et puis, Dieu, comme tout père, a besoin d'être aimé. Et Dieu, dans son sens, si on dit que Dieu est amour, c'est que Dieu, dans sa grandeur, est en fait très dépendant de notre amour. Sinon, il ne se fatiguerait pas tant que ça pour qu'on l'aime, comme tout père. Un père très puissant peut estimer qu'il n'a pas besoin de nous. Mais regardez bien, si vous n'aimez pas vos parents, vous leur créez du chagrin, malgré toute leur puissance. Il peut être président de la République, milliardaire, ne manquer de rien. Si ses enfants ne l'aiment pas, il n'est pas heureux, même s'il a tout. Et pourtant, ses enfants peuvent dire, ce n'est rien pour lui. Il peut les vider, la maison, c'est fini, il fait d'autres enfants. Mais regardez comment un père se sent. Même s'il a 10 enfants, tous sont sérieux, un seul est un cas, le papa ne peut pas être heureux. Les mamans n'en parlent pas. Alors personne ne prend le temps de se mettre à la place de Dieu, d'avoir pitié de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on se met à sa place. Pour voir les choses dans sa perspective. Pour comprendre les choses, comment lui les comprend. On se met à sa place pour comprendre sa logique. On est prêt à tout sacrifier juste pour avoir 5 minutes avec lui. Quand vous avez un petit copain, une petite copine que vous aimez, ou même parfois les filles avec leurs copines et consorts, au moins pour le moment, prends le téléphone. Ah, ma copine, c'est ce qui vient de se passer, vous lui racontez tout. C'est ça l'amour. Vous ne l'appelez pas parce que vous attendez quelque chose d'elle. Vous l'appelez parce que votre premier réflexe par amour, dès que ça chauffe, c'est de penser à celui que vous aimez. Vous avez besoin de réconfort, vous l'appelez. Vous avez besoin d'être encouragé, vous l'appelez. Vous avez besoin de conseils, vous l'appelez. Vous avez besoin de solutions, vous l'appelez. Des fois, vous vous ennuyez simplement, vous l'appelez. Combien de gens, quand ils s'ennuient, pensent à parler à Dieu? Ah, mais oui, c'est ça le problème. Alors que vos copains, vos copines, il faut téléphoner, il faut utiliser des crédits, ils ne sont pas toujours là. Dieu est toujours avec vous. Je suis toujours avec vous. Vous avez faim, je suis là. Vous êtes malade, je suis là. Vous dormez, je suis là. Je vous apporte tout. Et quand il y a un problème, vous regardez partout, sauf à moi. Imaginez un peu ça. Imaginez Dieu comme quelqu'un à côté de vous. Vous suivez partout. Vous voyez, vous allez vous balader, adjonquer, forniquer, mentir, faire tout ce qu'il déteste. Être tout le temps en train d'embrasser le diable. Et lui, il est là. Personne ne regarde jamais. Sauf quand ça chauffe. C'est ça qui est le pire. Et on se moque tellement de lui. Et dès que ça chauffe, on laisse tous ceux avec qui on passe du bon temps, on le regarde. Vous avez votre femme, elle ne vous dit jamais bonjour. Elle ne vous dit jamais bonsoir. Elle ne fait rien pour faire plaisir. Quand elle a besoin d'argent, elle vient voir. Ah, c'est toi mon mari, sois gentil, hein, ne te fâche pas, pardonne-moi mes péchés, donne-moi de l'argent. Vous donnez, elle part, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'argent encore, elle revient encore vous blaguer pour prendre de l'argent. Et c'est comme ça tout le temps. Vous parlez, vous suppliez, vous faites tout. Elle ne veut pas comprendre. Au moins, vous la virez. Il vaut mieux qu'elle ne soit pas là que d'être là, vous naguer, en prenant du plaisir avec tout le monde sauf avec vous, mais en ne revenant qu'à vous quand il y a des problèmes. C'est énervant. Vous n'avez jamais pris le temps de penser à Dieu en matière d'amour. Or, la Bible dit que nous n'avons été créés que pour une seule chose, le plaisir de Dieu. Comme tout enfant, on fait des enfants, pourquoi vous croyez? Pourquoi les gens pleurent quand ils n'ont pas d'enfants? Vous voyez, c'est à cause des enfants. L'enfant n'existe pas, il ne peut pas avoir de problème. Quand on se plaint parce qu'on n'a pas d'enfants, l'enfant n'a rien en affaire. C'est parce que l'enfant est un besoin pour le bonheur des parents. Et c'est pour ça que nous avons beau être des cas. Dieu continue d'en faire et d'espérer que demain, il y aura quelques-uns au moins qui vont l'aimer. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aimer Dieu, vous ne servez à rien à Dieu, sinon être une source de tristesse et de chagrin pour lui. Regardez comment un parent se sent quand il appelle son enfant, prends-moi telle chose. Et l'enfant dit non. Pour bien faire semblant de ne pas avoir entendu. Il préfère jouer avec ses amis, avec le voisin, surtout avec les ennemis de son papa. Comment on se sent? Voilà ce que vous faites à Dieu. Vous jouez avec le diable à longueur de journée et vous faites semblant de ne pas entendre Dieu qui vous appelle tous les jours. Vous vous réveillez, vous ne lui dites pas bonjour, vous vous couchez, vous ne lui dites pas bonjour. Mais dès que vous avez faim, vous savez où il est et on l'appelle. Donc, si vous rappelez que Dieu a besoin d'être aimé et que vous prenez le temps de voir ce qu'est l'amour, ce n'est pas compliqué de mesurer votre niveau d'amour avec Dieu. Si vous étiez cette personne dont vous êtes amoureux, comment vous vous comportez? En espérant que vous connaissez vraiment ce qu'est l'amour. Sinon, allez le redécouvrir. Lisez les anciens romans peut-être, parce que les nouveaux romans, c'est du n'importe quoi. Aucun d'entre nous ne peut se vanter d'aimer Dieu comme il faut, moi y compris. Mais nous devons y tendre. Parce que plus j'y pense, plus j'ai honte. Plus nous devons avoir honte. Et c'est là que vous comprenez encore l'amour. Et on se dit, mais comment il peut tolérer tant de choses?
Notre question. Priez beaucoup pour que Dieu vous aide à l'aimer. C'est d'ailleurs l'une des vocations du Saint-Esprit. Lui peut nous aider à aimer Jésus, à aimer Dieu.
Et c'est pour ça que Dieu dit, mais comme tout enfant, quand vous allez commencer à aimer Dieu, hey, comme je dis, si vous êtes un enfant, comme on dit, toujours sous les jupons de sa maman, toujours dans le pantalon de son papa, vous ne faites jamais de demande. Votre papa vous gâte tellement que les autres frères sont jaloux, croyant que vous demandez. On dit, lui, ne demande jamais rien, tu lui donnes. Pourquoi nous demande, tu ne donnes pas? Parce que lui-même, il est tout le temps avec moi. Mais les autres enfants qui oublient le père, qui vont courir derrière leurs affaires, c'est quand ça ne marche pas, ils reviennent au père, ils sont surpris de ne pas recevoir tant que celui qui est tout le temps dans la chambre de son papa en train de distraire son papa. Forcément, il y a une différence. Quel que soit votre âge, même si vous avez 60 ans, il n'y a rien qui fasse plus plaisir à votre père que de venir lui dire, papa, je suis en difficulté, j'ai besoin de ton conseil. Les parents sont très heureux. C'est pour ça qu'on dit, un enfant n'est jamais trop grand pour son père ou sa mère. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, nous faisons tout le temps comme si on était trop grand pour nous mettre sous la coupe de Dieu. Et c'est ça qui le frustre. Parce que nous sommes tellement insignifiants, mais tellement prétentieux. Chacun dit ce qu'il veut sur Dieu, et en plus on blasphème, c'est sa faute. Où il est pendant qu'il y a les guerres? Où il est pendant que les gens sont malades? S'il y avait Dieu, je ne serais pas malade, je n'aurais pas d'accident. Il y aurait, et puis on niaise. Pas ignorance. Revenons à David. On va raconter brièvement l'histoire de David, en attirant un peu notre attention sur un certain nombre de points. L'histoire de David, vous pouvez le lire beaucoup dans les livres de 1 Samuel et 2 Samuel, c'est lié fortement à l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment après la sortie d'Égypte, Israël n'avait pas des rois. Ils avaient des juges, comme Moïse, comme Josué, comme Samuel. C'est-à-dire que, comme c'était le peuple que Dieu s'est choisi, Dieu voulait que ce peuple-là dépende directement de lui, soit directement conduit par lui. C'est-à-dire, ce ministère-là, Dieu se l'est réservé. Ce pays-là, Dieu voulait le diriger personnellement. C'est son pays, c'est son peuple. Donc, il a juste nommé un juge, Moïse, Samuel, Josué, consorts, des sacrificateurs, qui étaient à la fois des prêtres, si vous voulez, des grands leaders spirituels, des juges pour régler les problèmes juridiques, des coordonnateurs. Et Dieu ne voulait pas avoir, c'est comme un gouverneur. C'est comme si on dit, bon, vous êtes une colonie, Vous n'avez pas besoin d'un président, un gouverneur vous suffit. C'était comme ça quand on était indépendant de la France. Donc Dieu n'avait pas voulu mettre un président sur Israël parce qu'il estimait qu'Israël n'était qu'une colonie du ciel. Les autres pays pouvaient avoir des présidents, mais Israël était une colonie du ciel, n'avait besoin que d'un gouverneur. À un certain moment, parce que, comme toujours dans notre rébellion, les Israéliens, au moment où Samuel était souverain sacrificateur, ont vu que les peuples voisins avaient des armées, Israël n'avait même pas d'armée, avaient des présidents ou plutôt des rois. Les idiots d'Israéliens ont dit à Dieu, ou plutôt à Samuel, de rendre compte à Dieu, puisque c'est lui qui les représentait, maintenant ça suffit avec les histoires de juges, tous les pays ont des présidents, tous les pays ont des rois, nous on n'a pas de roi, ça suffit, nous-mêmes on veut maintenant notre roi. Donc ton affaire de Dieu qui nous dirige directement, on ne voit jamais personne, on n'a pas d'armée, tout ça, ça ne nous plaît plus. Débrouille-toi pour nous donner comme tout le monde un roi. Et Samuel a rendu compte à Dieu. Et Samuel était déçu, il dit, mais voilà Seigneur, ce qu'ils disent. Et Dieu dit à Samuel, il ne faut pas te fâcher. Ce n'est pas toi leur problème, c'est contre moi qu'ils se rebellent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de contester ma royauté sur Israël. Ils veulent avoir un roi humain qui va les diriger. Parfait, on va leur en donner. Nous allons leur choisir un roi, mais préviens-les bien. Dis-leur qu'un roi a des droits sur eux. Il a droit de vie et de mort sur eux. Il peut les faire esclaves. Il va les obliger à entrer dans l'armée. Il va les utiliser comme serviteurs. Il va avoir le droit de prélever des impôts. Il va avoir un certain nombre de choses. Donc ça leur plaît bien d'avoir un roi. Mais un roi, ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'ils veulent? Samuel leur rencontre les idiots. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, on veut un roi. Tout ça, ce n'est pas grave. Nous, on veut notre roi aussi. Nous aussi, on veut. Démocratie, démocratie. Nous aussi, on veut notre démocratie. Voilà où on en est. Il dit, parfait. Tu vas aller et tu vas prendre un jeune homme que j'ai choisi et tu vas loindre. Il va devenir leur roi. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas entrer dans tous les détails. Vous allez lire ça. Le choix de Dieu pour ce premier roi, c'était Saül. Saül était un gaillard, comme les gens aiment, grand, fort, beau, beaux cheveux. Bref, l'allure d'un homme parfait était plus grand que tout le monde en Israël. Le prototype que les gens qui doivent faire des élections choisiraient. C'est-à-dire, humainement, quand on regarde, c'était celui qui avait vraiment l'allure d'un grand roi. Donc Dieu dit à Samuel, bon, c'est lui, on va le choisir, moi le roi. Et ainsi, Israël a eu son premier roi. Mais rapidement, ce roi, bien qu'étant investi par Dieu, a commencé à désobéir à Dieu. Dieu dit d'attendre qu'on fasse un sacrifice avant de combattre ou d'attendre le prophète Samuel. Il est trop pressé, son armée le presse, il fait le sacrifice lui-même. Dieu se fâche, dit ton règne sera écourté. Ensuite, Dieu dit va me massacrer comme on a dit hier des gens. Il va, il tue qui il veut, il garde qui il veut, il mange la viande qu'il veut. À un moment, Dieu en a vraiment eu marre. Dieu dit maintenant ça suffit. Ton règne est terminé parce que tu m'as désobéi. Je susciterai un autre homme selon mon cœur qui va diriger ce pays. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, Dieu a permis, parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. C'est pas comme aujourd'hui où nous avons la grâce du Saint-Esprit en permanence. À ce moment, le Saint-Esprit descendait sur les gens pour les joindre, les rendre capables. Quand Dieu n'en veut plus, Dieu se retire. Et c'est pour ça, David souvent disait, Dieu ne me retire pas ton esprit. Parce que là, c'est comme vraiment, tu ne vaux plus rien. Donc, à un moment, Dieu a retiré son esprit de Saül. Et ayant retiré son esprit de Saül, il a permis que de mauvais esprits prennent le contrôle de Saül. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez un chef commencer à faire beaucoup de bêtises, c'est un peu comme quand vous prenez le pharaon. On dit Dieu a endurci son cœur. Quand un chef désobéit à Dieu, Dieu non seulement arrête de l'aider, mais l'aide à gaffer. L'aide à faire des choses, je ne sais pas encore comment ça s'explique, je continue de réfléchir, mais Dieu l'aide à faire des choses qui vont le perdre. Regardez quand vous lisez bien la Bible insiste. Dieu ne fait pas d'en face par hasard. C'est-à-dire, il y a des moments où Moïse doit demander quelque chose au pharaon. Et la Bible dit que c'est à cause de Dieu que Pharaon a refusé. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et c'est pareil avec Saül. On dit Dieu a permis à un esprit mauvais de prendre son contrôle et de le tourmenter. Et il a commencé à multiplier les gaffes. Jusqu'à ce que Dieu se fâche et décide d'oindre à sa place David. Mais comment ça s'est passé? David, quand Dieu a décidé donc de mettre fin à son règne, il a essayé de supplier Samuel pour que Dieu revienne sur sa décision. Comme Dieu ne change pas, ça n'a pas été possible. Et Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre David. Mais sans lui dire qui c'était. Donc, Dieu lui a dit, va dans tel endroit, va voir donc le père de David, je crois qu'il s'appelle Isaïe, et demande-lui de présenter tous ses enfants. J'ai trouvé parmi eux un homme selon mon cœur. Samuel va voir Isaïe et lui demande de présenter tous ses enfants. Il présente tous ses enfants, sauf David. Parce que David, c'était le plus petit, c'était le dernier, personne ne s'occupait de lui, il était quelque part dans un village en train de garder les troupeaux. Samuel, après tout, même s'il est un sacrificateur, était un homme, il a regardé parmi les enfants, il a vu le plus beau, le plus grand. Il a voulu dire, c'est lui. Dieu dit, non, c'est pas lui. Tel, c'est lui, non. Et Dieu dit, mais pourquoi tu regardes aux apparences? Tu regardes les beaux, les grands, c'est pas ça mon problème. Demande à Isaïe si tous ses enfants sont là. Il demande. Et Dieu dit, non. Il y en a un, bon, lui-là, il n'est pas important. Il dit, non, fais-le venir. Il le fait venir. Et Dieu confirme, c'est lui.
Le plus petit n'a l'air de rien, un gringalet. Il n'a rien de roi. Je dis, c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui, l'homme selon mon cœur. Vers celui sur sa tête, donc, oint-le. Et Samuel a oint David en lui disant donc qu'il serait le prochain roi d'Israël. Chose curieuse, dès que Dieu a dit ça, David n'a pas commencé à demander, ce qui avait d'ailleurs été le cas de Saül, qu'est-ce que je fais maintenant, comment je prends le pouvoir, tout ça. Il dit merci et puis il retourne garder ses brebis, comme si de rien n'était. C'est pas parce que vous êtes venu à Dieu qu'on dit oui, vous êtes béni au nom de Jésus, vous allez être milliardaire, vous allez être prospère, que ça va se faire demain matin. Pour David, ça a duré, je sais pas, peut-être 20 ans. Donc, le fait d'être élu, le fait d'être oint, le fait d'être choisi, ne veut pas forcément dire que vous prenez immédiatement service. David a eu la sagesse de retourner humblement à sa vie de berger, de s'occuper de son troupeau. Et la Bible dit qu'il était un jeune, mais très vaillant. Quand, par exemple, les lions ou les ours attaquaient son troupeau et prenaient, par exemple, une brebis, il les poursuivait, les arrêtait et les déchiquetait avec la force que lui donnait l'Esprit de l'Éternel. Donc, ils en étaient là. Et David aussi était un grand musicien, il jouait de la harpe. Un homme qui aimait beaucoup Dieu, dans son humilité, un homme ordinaire. Ils en étaient là quand Saül, ayant commencé à troubler, il avait un peu comme des paranoïas, des maladies mentales, ça ressemble à certaines choses dans notre pays. Les gens lui ont dit, comme tu es souvent troublé par des esprits mauvais qui t'empêchent d'avoir la paix, nous connaissons un jeune homme qui s'appelle David qui joue très bien de la musique. Comme la musique adoucit les mœurs, nous proposons de le faire venir. Quand il va jouer de la musique, il va t'apaiser, tu vas avoir la paix. Et donc, la Bible dit qu'il a effectivement demandé qu'on lui appelle David. Donc, Dieu a organisé ainsi la rencontre entre David et Saül, l'entrée de David dans la cour royale. Donc David ainsi était appelé de son champ pour venir jouer de la musique pour Saül. Et la Bible dit que ça a fait un grand bien à Saül. Et Saül a commencé à ne plus pouvoir se passer de cette musique qui, comme un médicament, le détendait, lui permettait de le sentir un peu bien. Mais quand il se sent mieux, David retournait systématiquement à son champ. C'est-à-dire que David n'a aucun moment n'a cherché à dire, bon, on avait dit que j'allais être roi, voilà, on m'invite à la cour royale, est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour monter un coup, il faut tout faire pour ne pas partir. On l'appelle, il vient, il finit, il retourne là-bas. Il n'est pas pressé de prendre service. Il n'est pas pressé de voir s'accomplir la prophétie. Il fait ce qu'on lui demande de faire, il est fidèle à son activité quotidienne. Le plus important pour lui, c'est de bien le faire, d'honorer son père, d'honorer Dieu. Donc, il finit de faire la musique pour Saül, il retourne à ses champs. Et un jour, les Philistins, qui sont les grands ennemis d'Israël, ont attaqué Israël. Ils ont fait un camp, c'est-à-dire ils ont mis, à l'époque, quand on veut se battre, on pouvait parfois, sans faire le combat, positionner son armée à la porte d'une ville, la défier, parfois ils se rendaient pour éviter le combat. Donc les Philistins se sont positionnés à la porte d'Israël, et pendant, je crois, 40 jours, naguaient Israël. Ils avaient un géant, le fameux Goliath que tout le monde connaît, vraiment un homme de 3 mètres, baraqué, vraiment, je ne sais même pas comment on appellerait ça aujourd'hui, un gorille, qui terrorisait tout Israël. Lui seul pouvait massacrer toute leur armée. Donc, l'armée philistienne restait derrière. Ils envoyaient ce géant-là devant Israël pour dire, on ne veut pas se fatiguer. Si l'un d'entre vous est capable de battre ce géant-là, qui vient le battre, si le géant meurt, nous nous soumettons à vous, nous sommes vos esclaves. Si c'est la personne qui meurt, vous vous soumettez à nous. Pendant 40 jours, matin et soir, ce gars venait lancer un défi à Israël. Personne ne le relevait. Dieu permettant les choses, un jour, le père de David l'appelle et dit, bon, tes frères qui sont aussi des soldats, ceux qui avaient été refusés par Samuel, qui sont des soldats dans l'armée, sont au front. Va les voir, apporte-leur la nourriture, prends des nouvelles de leur chef, tout ça, et reviens me donner des nouvelles, puisqu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et donc c'est comme ça que David a pris des provisions et est parti sur le front. Quand il est arrivé là-bas, il est tombé par hasard dans un de ces moments où Goliath était en train de défier Israël, en train de les narguer. Et tout le monde se cachait, même le roi Saül, qui aurait dû être le premier à se battre, était un lâche. Il est parti se cacher en disant aux gens que si quelqu'un va tuer Goliath, il va lui donner sa fille en mariage, beaucoup de bien. Donc, au lieu de se battre, il donne simplement des cadeaux aux gens pour se battre à sa place. Et donc, tout le monde se disait, mais personne ne peut se battre avec lui. David arrive et il pose la question à chacun. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui raconte. Il dit, c'est tout? Il dit, oui. Il dit, pourquoi personne ne le bat? Bon, moi, je suis d'accord, je vais l'affronter. Les gens disent, mais tu n'es pas timbré. Son grand frère dit, tu es fou, prétentieux, c'est pas ça, on t'a moins roi, tu cherches une occasion de te faire voir, tout ça. Il dit, mais moi, je vais l'affronter. Et comme les gens ne prenaient pas au sérieux et qu'ils disaient à chacun, je vais l'affronter, on a fini par informer le roi. Le roi dit de faire venir celui qui dit ça là. Quand vous avez dit, toi, que c'était quelque chose de sérieux. Toi, tu veux affronter David. Non, c'est pas sérieux. David dit, non, mon roi, je peux l'affronter. Je ne veux pas l'affronter avec ma force, mais il a insulté le Dieu d'Israël. Parce qu'à l'époque, les guerres étaient comme aujourd'hui, d'ailleurs encore des guerres religieuses. Donc, en attaquant les Israéliens, les Philistins se moquaient des Israéliens de leur Dieu en disant, s'il peut vous sauver, qu'il vous sauve. David dit, moi, je dois relever cet affront. Et comme le roi en doutait, il dit au roi, mais moi, j'ai l'habitude de déchiqueter des lions et des ours, rien que pour mes brebis.
Donc, David, je peux le vaincre. Et Ouassa dit, bon, si ce petit-là, effectivement, peut déchiqueter des ours, ça vaut peut-être le coup. Mais là, quelque chose d'intéressant se passe. Le roi dit à David de venir, il va lui porter son armure. Les armures des combattants, il va lui donner son épée, les casques, tout ça. David porte ça, il a failli tomber tellement c'était trop lourd, tout ça. Il dit, franchement, écoutez, mon roi, prenez tous vos attirails, vos armes, là, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas me battre avec ça. Je vais simplement, avec mes mains nues, un bâton, mon lance-pierre et 5 cailloux. C'est une grande leçon dans la vie. On vous appelle pour faire une mission. Vous avez un défi à relever. Souvent, pas mimétisme, pas imitation, pas esprit de snobisme. On s'encombre des moyens, des outils communément utilisés par tout le monde, mais qui ne sont pas adaptés à nous. Vous voulez créer une entreprise parce que tout le monde a secrétariat, a entreprise, a voiture de fonction, a plaque, a ci, a ça. Vous voulez vous en encombrer. Alors que peut-être que vous ne savez pas d'avoir destiné. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Au lieu de chercher la meilleure manière, la meilleure combinaison, les meilleurs outils pour être efficace, souvent les gens se laissent encombrer des outils suggérés par d'autres, mais qui sont en fait des pièges. Parce que si David, petit gringalet, prend une armure, des armures de 20 tonnes, de 20 kilos, 30 kilos, l'épée seule était telle qu'il ne pouvait même pas la soulever. Il ne pouvait même pas bouger, il faut en train de se traîner. Quand Goliath va le tuer, comme beaucoup de gens s'encombrent de choses qui ressemblent à des armures d'autres personnes plus grandes qu'eux, ou qui ont des destinées différentes, et que ça les plonge. Donc David a eu la sagesse de dire non. Je suis honoré, ton armure vaut très cher, ton épée est la plus grande, tout ça. Moi, je ne sais pas me battre avec tout ça. Garde tes armes. Moi, j'essaie d'utiliser un lance-pierre. Laisse-moi avec mes lance-pierres. C'est une grande leçon. Quand les gens arrivent à certains niveaux, ils laissent les outils qui étaient leur force pour vouloir imiter ceux qui utilisent leurs concurrents. Mais vos concurrents ne sont pas vous. Vous n'avez pas les atouts de vos concurrents. Utilisez les outils que vous maîtrisez le mieux pour combattre. Ne cherchez pas à utiliser les outils qui sont à la mode. Un karatéka arrive quelque part, tout le monde se bat. Ou bien un taekwondo, il arrive quelque part, tout le monde se bat avec la main. S'il veut faire, il veut être à la mode et qu'il n'utilise pas ses pieds, on va le battre. Parce que le taekwondo, il est un spécialiste d'abord du pied. S'il fait un combat qu'on le laisse utiliser ses pieds, il va gagner. Mais s'il est quelque part où tout le monde est boxeur et puis il veut jouer le boxeur, on va le tabasser. Et l'inverse, c'est vrai. Si le boxeur arrive dans le camp de taekwondo et que pour faire, il m'a dit, moi-même, je veux utiliser le pied, au lieu d'utiliser sa main, on va le battre. Chacun doit avoir la sagesse d'utiliser ce qu'il sait faire et arrêter de vouloir imiter les autres. C'est une leçon très, très importante. David va donc au front, tout nu, et il appelle Goliath, il dit, bon, moi, je te défie. Goliath, naturellement, se moquait de lui avec celui qui porte les armes de Goliath, tout ça. Et quand Goliath l'a menacé de le déchiqueter, lui dit, bon, toi, tu viens avec moi, tu viens contre moi, avec l'épée, le javelot, tout ça. Moi, je viens avec toi simplement avec la force de mon éternel. Il prend son lance-pierre, il tient seul caillou, ça rentre tout droit dans le fond de Goliath. Goliath tombe mort. Combat terminé. Imaginez la scène. En fait, David n'a pas combattu. David a été tué pour Dieu Goliath. Il y a des combats qui ne sont pas vos combats, c'est des combats de Dieu. Si vous les faites comme vos combats, vous allez perdre. Parce que vous ne pouvez pas les gagner. Mais si vous vous laissez être un instrument dans la main de Dieu, Dieu vous utilisera pour gagner en ridiculisant quasiment l'obstacle. David n'a pas cherché à dire, bon viens, je vais te feinter, je vais te dribbler, je vais te faire tomber. Il savait que son caillou ne peut pas tuer. Mais par la foi, il savait qu'un simple caillou suffit à Dieu pour faire la différence. Et il a bien dit, je ne te combats pas avec ma force, je n'ai pas de javelot, je n'ai rien. Mais au nom de l'Éternel, moi je te tue maintenant. Et il meurt. La différence n'a pas été faite par David. Ça a été fait par Dieu qui a utilisé David. Et David qui s'est laissé être un instrument de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, non pas par votre sagesse, non pas par votre force, mais par l'Esprit de l'Éternel. L'une de nos grandes erreurs, c'est de vouloir compter sur ce que nous avons, sur ce que nous pouvons. C'est-à-dire généralement rien, au lieu de compter simplement sur la sagesse, sur la force, sur l'Esprit de l'Éternel. David ayant gagné ce combat, est devenu très très populaire. Les femmes l'applaudissaient, les gens l'applaudissaient, les gens l'aimaient. Et comme ça arrive, hélas, aux chefs qui ne connaissent pas Dieu, Saül, qui aurait dû l'applaudir, devient son principal adversaire. Parce que Saül est jaloux. Parce que Saül se dit, si ce petit-là devient si populaire que ça, bientôt il va me ravir la vedette. Alors qu'il n'a rien fait à Saül. Alors qu'il a continué d'être très loyal envers Saül, Saül a commencé à essayer d'organiser des coups pour le tuer. Entre-temps, Saül a même essayé de dire qu'il voulait lui donner sa fille en mariage, espérant que sa fille allait le piéger. David dit, je ne veux pas de ta fille cadeau, je veux la mériter. Il dit à David, va me tuer 100 Philistins et amène-moi leur prépuce. C'est-à-dire qu'on les circoncis, amène-moi leur prépuce. Parce qu'il se disait que David ne peut jamais tuer 100 Philistins. David a fait tuer 200 Philistins et lui a amené leur prépuce. Il a été obligé de lui donner sa fille. Quand il a poursuivi David pendant longtemps, et Dieu étant avec David, David échappait à ses plans, et Dieu a permis aussi que le meilleur ami de David soit Jonathan, le fils de Saül, de manière incroyable. Comme on dit, quand Dieu est avec un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. C'est le fils de Saül qui était le meilleur ami, vraiment un ami sincère qui a été loyal à David jusqu'au dernier moment. Donc, grâce à cet ami-là et à Dieu, ou grâce à cet ami-là, certainement utilisé par Dieu, David a réussi souvent à échapper à Saül. Il est même arrivé une fois où Saül était venu pour envoyer des gens pour l'arrêter dans sa maison, et c'est sa femme qui l'a aidé à fuir, la femme sur qui Saül comptait pour le perdre. À un moment, Saül, continuant de poursuivre David, David, pas une seule fois dans sa vie, ne s'est demandé comment je fais pour en finir avec David, avec Saül. Pas une fois, il n'a réfléchi à comment battre Saül, comment lui porter des coups, comment le finir. Il aurait pu dire, mais Dieu m'a oint, ce gars l'avait me fatigué alors que Dieu l'a rejeté, comment je le combats? Non, il dit, c'est Dieu qui l'a oint, je ne toucherai jamais ce que Dieu a oint. Il ne m'appartient pas de contester, il ne m'appartient pas de combattre, il ne m'appartient pas de toucher ce que Dieu a fait. Quand Dieu le voudra, il le défera, mais on ne me prendra jamais en train de porter la main sur le loin de l'Éternel. C'est un autre principe important de la vie. Quelle que soit votre destinée, quel que soit votre appel, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire et que Dieu ne vous demandera jamais de faire et que la sagesse en Dieu ne vous permettra jamais de faire. Dieu dit beaucoup de choses en matière de combat, mais quand il arrive sur les autorités, il dit, vous respectez les autorités, vous priez pour elles, vous ne combattez jamais aucune autorité. Regardez dans tous les pays. Regardez en Russie avec Yukos, regardez dans la plupart des pays. Quand un chef veut te brise, rien ne se passe. La Bible recommande aux gens de combattre dans beaucoup de domaines. Mais quand on arrive sur le chef, la Bible dit, vous n'attaquerez jamais une autorité. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si quelqu'un est chef, c'est que Dieu a permis. Ça ne veut pas dire que Dieu veut, mais Dieu a permis. C'est à Dieu d'enlever les chefs et pas aux hommes de les enlever. Mais qui a décidé que le mandat de Yadema se terminait? Qui a décidé que le mandat de Bongo se terminerait? Le président ghanéen vient de mourir, il a fini le mandat? C'est pendant qu'il criait qu'il était le roi des rois, que Saddam Hussein n'est pas Saddam Hussein, que Kadhafi est mort comme un rat, non? Le président nigérien, super puissant, il est mort. Pendant qu'il a cherché à le faire partir, il est mort tout seul, non? Regardez bien, ça se multiplie dans le monde. Le président éthiopien, indétrônable depuis on ne sait trop quand, personne ne s'y va jamais, quelqu'un pouvait le battre dans l'élection. Quand l'heure de Dieu a sonné, quelqu'un savait qu'il allait mourir. Mais quand l'heure, regardez Mobutu, pendant que les gens essayaient de l'attaquer, Dieu fait les rois et Dieu les défait. Le mieux que quelqu'un qui craint Dieu peut faire, c'est de laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Mais personne de sage ne perd son temps à construire pour faire tomber un chef. Ça ne sert à rien. Et David, qui avait toutes les raisons, Dieu lui a même dit que c'est toi qui vas le remplacer. Dieu lui a dit qu'il est mauvais. Tout le monde voit qu'il persécute David de manière injuste. David dit, moi, je ne toucherai pas ce que l'Éternel a fait, que l'Éternel se débrouille avec ça. Il a préféré fuir tout le temps que de réagir à la provocation de Saül. Et dans sa fuite, à un moment, il a été rejoint par ce qu'on appelle les 400 vaillants hommes de David, c'est-à-dire plein de gens frustrés, de gens endettés, bref, des gens qui étaient rejetés par la société, qui avaient des problèmes. Il est devenu un peu le leader, c'est pas lui qui a voulu. Ces gens-là, dans sa fuite, parce qu'ils se cachaient dans les cavernes et consorts, l'ont rejoint. Et sont devenus un peu comme, bon, c'est comme une guérilla, c'est un peu comme une petite milice qui n'a pas choisi. Mais Dieu a permis que des gens perdus, des gens qui n'étaient rien, le rejoignent. Des gens ratés, des gens indisciplinés. Et lui étant un grand chef de guerre, les a disciplinés, les a formés, les a encadrés. En a fait une petite armée, un peu comme un commando redoutable. Dans leur fuite, par deux fois. La première fois, ils étaient dans une caverne où ils étaient cachés. Saül, en le poursuivant, à un moment, a eu envie d'aller aux toilettes. Comme une caverne, c'est quand même noir, hein. Donc, son armée est devant la caverne. Saül rentre dans la caverne pour aller uriner. Il ne savait pas que c'est dans la caverne que David et Saül étaient cachés. À ce moment, les collaborateurs de David lui disent, regarde, l'heure de Dieu a sonné. Dieu te livre Saül en tes mains. C'est le moment de finir avec lui, de devenir roi. Regardez comment la tentation est forte. Et on peut te le justifier, hein. On va vous dire de manière biblique, voilà, c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Voilà l'opportunité, voilà la fenêtre de Dieu. Saül se lève, il va là-bas, il dit non, je ne peux pas le tuer. Il coupe juste sa robe, c'est-à-dire un pan de son vêtement, et il revient. Mais la Bible dit que même dès qu'il a coupé le pan de son vêtement, son cœur a commencé à battre. C'est-à-dire, c'est ce que je disais d'habitude, la paix est l'arbitre de Dieu dans votre cœur. Quand vous sentez que vous commencez à troubler, que vous avez perdu la paix, c'est toujours le signal que vous venez de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. L'état de votre cœur, la paix qui est en vous, est le meilleur signal de la volonté de Dieu ou d'un dérapage spirituel. Dès que son cœur a commencé à battre, David a compris qu'il venait de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et il s'en est repenti, il a demandé pardon à Dieu, il a dit à ses collaborateurs, imaginez, on dit, toi tu es bête, il suffisait de tuer. Il dit, non, je ne toucherai pas le l'Éternel. Il attend que Saül sorte de la grotte et soit éloigné, et il sort, il crie, dit, tu vois, tu veux me tuer, moi tu es mon Seigneur, je n'ai rien fait contre toi, je ne fais rien contre toi. Dans cette grotte-là, j'aurais pu te tuer. Regarde ta robe. Mais au nom de Dieu auquel je crois, je ne te ferai rien. Que Dieu soit l'arbitre entre toi et moi, qui nous fasse justice. C'est lui qui venge, qui rétribue. Saül, naturellement, avait honte, il demande pardon, que Dieu te bénisse, tout ça, il est parti. Ça n'a pas empêché quelque temps après, quand les mauvais esprits ont repris le contrôle. Et cette histoire vous prouve que si vous vous éloignez de Dieu, Dieu permettra que des mauvais esprits vous poussent même à la méchanceté contre votre volonté. Un mauvais esprit reprend son contrôle et continue de poursuivre David. Une autre fois, ils étaient avec ses militaires, ses généraux, ses gardes-corps. Une nuit, ils ont campé quelque part, ils ont dormi. Il y avait l'épée de Saül à côté de lui, sa goutte, il était entouré par ses militaires. Et il dormait tellement profondément que David arrive avec ses hommes. Il est parti jusqu'au roi, prendre son épée, prendre sa goutte. Et il pouvait encore le tuer. Il prend juste l'épée, la goutte, il s'en va. Et il va loin, il dit, mais réveillez-vous. Et le général fait le malin. C'est qui ça qui trouble le sommeil du roi? Il dit, mais vous n'avez pas honte, on trouble le sommeil du roi. Où est l'épée du roi? Où est sa goutte? Vous qui êtes si vigilant que ça sur le sommeil du roi. Vous voyez, vous dormez tous. Dieu vous a livré encore à nous. On aurait pu vous tuer, on ne l'a pas fait. Arrêtez de nous poursuivre. Que Dieu soit l'arbitre en vous et nous. C'est ça la sagesse. Mais quand vous frappez sur quelqu'un qui est chef, parce que la Bible dit, toute autorité est établie par Dieu. Dieu n'a pas besoin de choisir un président qui ait des signes spirituels. Si Dieu ne veut pas, personne ne peut devenir chef. Dieu est souverain quand il s'agit des chefs. Et donc, David, et c'est l'un des grands principes qu'il faut retenir de David, a été l'une des plus grandes incarnations bibliques du respect de l'autorité. Pas parce que l'autorité est bien, pas parce que l'autorité est juste, mais parce qu'il est sacré, il est la volonté de Dieu que nous respections les autorités. Et plus vous respectez une autorité, si elle est injuste, plus rapidement Dieu prendra votre défense parce qu'il voit ce qui se passe. Vous avez une belle-mère, c'est comme dans l'histoire de Ruth par exemple. Vous avez une belle-mère, vous avez un beau-père qui vous pourrit la vie. Vous avez le devoir, vous êtes obligé spirituellement de ne pas lui manquer du respect, d'être gentil avec elle. Et comme le dit la Bible, autant qu'il dépend de vous, d'être en paix avec elle. Vous pouvez tout faire pour elle, qu'elle vous gifle, qu'elle vous batte. Il est dans votre vocation de chrétien de l'accepter et de prier. Dieu qui voit ça prendra votre défense. Mais vous ne pouvez jamais manquer de respect à une autorité, manquer de respect à un parent sous prétexte qu'il a mérité. La Bible ne le permet pas, Dieu ne le permet pas. L'autre chose qu'on peut noter dans l'histoire de David, il y en a beaucoup, hein, c'est toute une vie, c'est que dans ce processus, alors qu'il venait d'être choisi président ou roi, c'est là où les ennuis de David ont commencé. Il a vécu les pires années de sa vie. Après avoir été choisi roi, tout le monde savait qu'il avait été choisi roi. Il a vécu quasiment comme un paria, comme un bandit. Il a dormi dans les cavernes, il a manqué de nourriture. Il a dû faire de la guérilla, protéger les bœufs des autres. C'est-à-dire, il a une vie vraiment, comment on dit, un vrai parcours du combattant. Mais à aucun moment, il n'a renié Dieu. À aucun moment, il n'a douté de Dieu. C'était toujours, Seigneur, aide-moi. À un moment, il a même douté que bon, peut-être que ça ne s'accomplira jamais. Ce n'était pas son problème. Mais dans les pires épreuves, dans les pires moments, David savait que quoi qu'il en soit, le Dieu que lui connaît là ne l'abandonnera pas et que tout ce qu'il fait est bon. À un moment, David, tellement il devait fuir Saül, qu'il a même eu le culot d'aller se réfugier dans le camp des Philistins, c'est-à-dire dans le camp des pires ennemis d'Israël. Et il s'est mis au service des Philistins. Il était obligé de mentir. À un moment, c'est parti jusqu'à ce que les Philistins devaient faire un combat contre Israël. Et pour le tester, ils ont demandé qu'il soit du combat. Il a accepté, il s'était aligné avec eux. Mais Dieu, ayant pitié de lui, ne voulant pas lui permettre de faire un acte qui va briser sa carrière, a permis que les généraux philistins reprochent au roi de laisser David combattre avec eux. Il dit, mais même s'il est loyal, peut-être dans le combat, il va changer subitement et nous tuer. Non, même si tu es loyal là, renvoie-le à la maison. C'est comme ça que David a été sauvé. Sinon, David aurait quasiment combattu Israël avec les philistins. Tellement le roi l'avait poussé à bout et qu'à un moment, il était devenu fou. Pour nous dire que dans les épreuves, dans les difficultés, si vous ne savez pas faire, vous allez parfois avoir l'impression que Dieu est tellement loin que vous allez vous abandonner au diable pour vous sauver. Vous allez rejoindre le camp du diable en trouvant que finalement, c'est plus simple. Qu'à cela ne tienne, j'en ai marre. Mais ça n'a pas duré. Il venait à peine de faire ça, qu'il revient de ce combat. Il voit que tout le camp qu'il avait a été massacré, les animaux volés, toutes leurs femmes et leurs enfants ont été pris en esclavage par les ennemis. Pendant qu'il était en train de s'amuser avec l'ennemi, le malheur est tombé sur lui. Parce que le malheur n'est jamais loin quand vous tombez dans le piège de vous dire, bon, qu'à cela tienne, je fais alliance avec Satan pour avoir la paix. L'alliance avec Satan se termine toujours mal, c'est sa spécialité. Heureusement, dès qu'il s'en est rendu compte, David s'est rappelé après tout que Dieu existe, même s'il avait oublié quelques instants. Il est tombé au pied de Dieu. C'est l'une des grandes caractéristiques de David. Quand David a des problèmes, qu'il se rend compte que c'est parce qu'il a désobéi à Dieu, il est très prompt à se repentir. Très prompt à faire son mea culpa. Très prompt à se repentir. Et en toute honnêteté, en toute sincérité, sans faire d'hypocrisie avec sa propre conscience et avec Dieu, à dire à Dieu, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est l'une des choses que Dieu aime le plus chez David. Et donc, quand il s'est repenti, Dieu lui a permis d'aller réattaquer ceux qui venaient de voler leurs femmes et leurs enfants, de les battre et de récupérer tout cela. Une autre histoire qui est importante dans l'histoire de David, c'est qu'à un moment, David, comme il avait, comme je dis, cette petite milice, il y avait plein de bergers et il assurait un peu la sécurité privée, un peu le gardiennage privé de ces milices. Et la norme, c'était qu'après avoir fait ces choses-là, Quand venait le moment de la récolte, les propriétaires de ces troupeaux qu'ils ont protégés leur faisaient des dons. Par exemple, au moment de tondre les brebis, on peut leur donner de la laine, on peut leur donner à manger. On leur donne une partie un peu de la production en récompense de leur service de sécurité. Parce que c'était des grands déserts qu'on sort, ils pouvaient avoir des pilleurs, des braqueurs, des choses comme ça. Il y a un homme qui s'appelle Nabal qui était très très riche, dont, sans le connaître, David avec son armée avait protégé le troupeau pendant toute la saison. Le jour où ils font donc la production, David envoie quelques-uns de ses hommes le voir pour dire « Bon, maître, seigneur, nous avons été avec toi toute la saison. » Mes hommes et moi, on a faim, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Nabal, qui était un homme très dur, très arrogant, très pingre, très méchant, a envoyé balader les collaborateurs de David en disant, qui est ce David-là? Ça doit être un fils d'esclave pour oser me dire de leur donner quoi que ce soit. Je ne le connais pas. Qui fout le camp? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dit ça à David, David a piqué une colère monstre. Il dit, bon, tous ces 400 hommes-là, prenez vos épées, montez sur les chevaux, je vais aller tuer toute la famille de Nabal tout de suite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même un homme qui démontre une grande patience, une grande maîtrise de lui, une grande sagesse, une grande crainte de l'Éternel n'est jamais à l'abri de la chute. On pense souvent qu'on dit, mais comment on va parler tout à l'heure de Bathsheba et qu'on s'en dit, mais comment il a pu, quand même un grand homme comme ça, mais ce grand pasteur-là, tout le monde le connaît, comment il a pu faire tel adultère, comment? La réalité, c'est que l'homme est toujours fragile. Et que c'est généralement quand on le pense le plus à l'abri de la tentation, quand on le pense le plus en sécurité, qu'il est le plus vulnérable. C'est pour ça que la Bible dit que Satan rôde prêt à dévorer. Satan est vigilant. Et surtout quand vous avez l'impression que, bon, écoutez, après tout ce qu'on vient de dire là quand même, on peut dire que David, il a le self-control, il ne fait pas n'importe quoi. Certainement que ce jour-là, ils avaient très faim, affamés à point d'oreille, ils sont dans le désert, et un imbécile comme ça lui envoie tel message, il était tellement élevé qu'il a mis son armée en branle, il allait massacrer tout dans la famille Nabal. Dieu l'aime beaucoup, et nous ne voulons pas permettre que ce moment de faiblesse lui soit fatal et qu'il ait du sang sur la main, a permis que la femme de Nabal, qui s'appelle Abigaël, qui est une femme très très sage, soit informée de la situation par un de ses collaborateurs. Qui est venu lui dire, ah, le maître vient de faire tel, on a envoyé les gens dire ça à David. Tel que je connais David, s'il débarque ici, nous sommes tous morts. On n'ose même pas dire ça au maître, parce que lui va commencer à crier sur nous, on t'informe. La dame qui était très sage, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une femme sage qu'avoir une femme idiote, des femmes agitées qui poussent leur mari à la violence, à la rébellion, à l'entêtement, dans le moment de crise. Elle a dit, ah, c'est pas grave, chargez-moi la nourriture, chargez-moi du lait, du vin, bref, elle a fait un gros stock de nourriture qu'elle a cherché sur les ânes. Elle dit, je marche en direction de David, je vais l'intercepter sur le chemin. Dès qu'elle rencontre David, elle descend de son cheval, elle qui est la femme d'un riche, elle se met à genoux, elle se met à terre, mon seigneur, mon roi, tu es béni, mon mari est un idiot, ne fais pas attention à lui, tu as été choisi par Dieu pour diriger Israël, il ne faut pas qu'il te fasse commettre un péché pour que tu aies du sang sur la main. Pardonne-nous, c'est ma faute, c'est moi qui ne m'en suis pas occupé, tout ça là c'est pour toi, je te demande pardon, ne fais pas attention à lui. Elle dit, elle a eu la sagesse d'aller rencontrer David avant qu'il ne soit trop tard, de le calmer par des cadeaux, et surtout par une humilité, par une soumission. Venant, imaginez, c'est pas n'importe qui. Si la femme d'un milliardaire vient vous rencontrer, vous, un vulgaire bandit, pour vous faire allégeance comme ça, vous êtes bien obligé quand même de vous calmer. David s'est calmé et ainsi, Abigaël avait sauvé non seulement son mari, mais beaucoup de gens. Et comme ce soir-là, ce mari était, comme toujours, sous, elle n'a même pas osé lui faire le compte-rendu. Elle a attendu que le lendemain, l'effet de l'alcool lui passe pour lui dire, mais hier soir, voilà ce qui s'est passé, nous avons risqué le pire, on a failli tous mourir à cause de toi. La Bible raconte que Nabal, quand il a été informé de ça, je ne sais pas si c'est toujours par méchanceté ou parce qu'il a réalisé qu'il est passé très près de la mort, il a piqué une crise cardiaque. Et il a été, si vous voulez, un peu comme dans le coma pendant, je crois, 10 jours, je ne m'en rappelle plus. Et au bout de cette période-là, il est mort. Et la Bible dit que sa famille a été ainsi délivrée de lui, que David a demandé la main d'Abigaël, qu'il a acceptée, et Abigaël est devenue sa femme.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?